Voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneau.
Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou sont les grandes voix d'Europe 1. Gérard, vous vouliez rebondir sur ce sujet du travail et de la paresse.
Oui, je voulais surtout rebondir sur l'idée qu'aujourd'hui, la gauche... Vous savez, c'est Valls qui avait dit il y a deux gauches en France. Il avait d'ailleurs fait une interview intéressante au Nouvel Observateur à l'époque où il était en fin de ministère. Aujourd'hui, il y a deux gauches en France, effectivement. Elle est incarnée, cette dualité des deux gauches. Elle est merveilleusement incarnée par un couple de duettistes qui sont aujourd'hui peut-être les meilleurs sur la scène. J'ai hâte de les voir à l'Olympia ou je ne sais où. Les duettistes Roussel et Rousseau. Roussel et Rousseau. Alors là, c'est quand même la caricature absolue extraordinaire. Roussel et Rousseau. Roussel. Vous avez là un néo, je dis ça gentiment, mais enfin un néo-stalinien, puisqu'il est le chef des communistes et qui reprend l'héritage de Georges Marchais, qui était à l'époque, lui, un vrai stalinien. Donc, un néo-stalinien nous fait aujourd'hui l'éloge du travail. Je tape dans les mains, c'est formidable, un néo-stalinien. Mais cela étant, c'est vrai que Staline aussi, le stakhanoviste, c'est bien dans les valeurs de
si vous ne travailliez pas, vous alliez au goulag, mon cher Gérard.
C'était ça. On rejoint l'héritage. Effectivement, de Staline. C'est intéressant. Et puis, de l'autre côté, nous avons l'universitaire, présidente d'université, elle ne l'est plus, mais elle l'était encore il y a quelques mois, l'universitaire bien connue, Sandrine Rousseau, qui nous fait l'éloge de la paresse. Et ça, c'est formidable. C'est un divin. Rien de... Alors, et n'oublions quand même pas, et là, je reviens à autre chose, c'est-à-dire à la vraie politique, n'oublions pas que ces gens-là, M. Roussel d'un côté et Mme Rousseau de l'autre, les deux duettistes, ont été élus par le même parti. Ils ont eu l'investiture du même parti, qui s'appelle la NUPES, qui a fabriqué un programme soi-disant électoral pour attraper les gogos, et qui a d'ailleurs attrapé un certain nombre de gens, puisqu'il y a eu 130 et quelques députés élus par la NUPES, et qui aujourd'hui, ayant été confortablement élus dans cette caravane, nous explique qu'effectivement, y en a qui disent qu'il faut travailler, et d'autres, il faut se reposer. Ben voilà, chacun choisira son camp.
Charles Villeneuve.
Oui. Roussel et Rousseau correspondent à deux réalités. Roussel, il a très bien compris qu'une partie de l'électorat du Parti communiste est passée dans les rangs du Rassemblement national. Il a très bien compris ça. Et c'est à cet électorat-là qu'il adresse des signaux forts. Il renoue avec la tradition classique ouvrière de la gauche. Et en cela, il a raison, parfaitement raison. Rousseau, elle... Elle correspond à une pensée actuelle d'une frange de la population qui a découvert avec la pandémie qu'il fallait plus se tuer au travail, qui a découvert aussi de toute façon que le pavillon avec jardin n'était pas désagréable de retrouver ce cocon-là. C'est une partie de la population qui existe parfaitement. Et elle essaie de capter ce segment de la population. En réalité, c'est très précis ce qu'elle est en train de faire. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs sociologues, d'ailleurs, ne s'en étonnent plus et disent que c'est vrai qu'il y a ce segment de la population qui pense à ça, qui a découvert une nouvelle manière de vivre et qui est sensible au fait que la planète elle-même est en danger.
C'est ce qui se passe aux États-Unis avec la grande démission. Il y a plein de gens qui quittent des CDI maintenant en disant voilà, je vais aussi vivre.
C'est pour ça que Roussel et Rousseau, il faut les prendre au sérieux.
Alors, Michel interrogation, on pourrait se dire est-ce que la NUPES peut exploser ou non avec effectivement Roussel et Rousseau dans le même dans la même NUPES.
Dans le même bateau.
Je pense que
Roussel n'est pas dans la NUPES.
Je pense que
le PC est dans la NUPES.
Excuse-moi. Mais c'était le contraire de ce que j'étais en train de dire, pardon. Mais donc, est-ce qu'on peut penser à une explosion? Oui, a priori, on peut se dire c'est pas possible, ça va pas durer longtemps non plus. Mais en réalité, c'est un accord électoral. Il faut se rappeler que c'est un accord électoral et qu'il y a des élections toujours en vue, dont les municipales, et que par conséquent, on peut se dire que les malgré tout ça, les NUPES garderont un accord électoral. Donc, il ne faut pas non plus prédire tout de suite l'éclatement de ce mouvement.
Mais je n'ai pas dit que ça allait éclater.
Oui,
ça
non, mais justement. Pas. Mais je posais la question. Tout le monde se pose la question. Est-ce que ça peut coïncider? Eh bien, oui, ça coïncidera par le biais des élections.
Moi, je vous rappelle que le droit à la paresse a été un... L'écrivain Paul Lafargue qui avait fait un livre qui s'appelait écrit en 1883 à une époque où les petits enfants de 12 ans travaillaient dans les usines et s'étaient insurgés contre les prêtres les économistes, les moralistes qui étaient à l'origine de cet amour absurde du travail. Vous voyez ? Donc quand même...
Ceci étant ce que dit Charles.
Oui, Charles, c'est vrai.
C'est vrai, il y a une nouvelle génération, il y a une nouvelle proportion de la population qui a découvert avec la pandémie autre chose.
Le Covid y a été pour quelque chose.
Et je crois que ça renforce l'individualité de notre société.
Une nouvelle pause dans les grandes voix. Dans un instant, on parle de la guerre en Ukraine. A tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Avec Catherine Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. D'un côté, nous avons le charnier d'Izium. De l'autre, cette blitzkrieg ayant permis aux forces ukrainiennes de reprendre plus de 6000 km² à l'armée russe sur leur territoire, contre-offensive fulgurante dans plusieurs régions, Kharkiv notamment, ainsi que Kherson au sud-ouest. Décidément, cette guerre en Ukraine, c'est le yo-yo permanent. Mais à quoi doit-on la réussite de cette reconquête ? Est-ce un génie militaire, un affaiblissement de l'armée russe au bout de 8 mois de conflit? Comment est-ce que vous voyez les choses, Gérard Carrérou?
Oui, il y a de ça. Ce que vous avez dit est juste. Il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord, clairement, je crois, le fait national ukrainien a surgi. On ne l'attendait pas, les Russes ne l'attendaient pas en tout cas. Il y a quand même une armée qui a du moral. Une armée qui a du moral, qui est nombreuse, qui maintenant a plus même de... Il y a plus de soldats ukrainiens que de soldats russes sur le terrain. Donc ça, le moral, c'est... Mais le moral sans... Les moyens, ça n'existe pas dans une guerre. Or, les moyens, depuis l'été, les envois massifs des Américains, notamment... Alors, on a beaucoup parlé, parce qu'on est un peu chauvin, de notre canon, et il est très utile, notre canon César. Mais les Américains ont surtout envoyé, eux, leurs HIMARS, H-I-M-A-R-S, pour ceux qui ne l'ont pas écrit. Ce sont des lance-roquettes qui sont extrêmement efficaces. Et c'est largement... Ils ont été entraînés. En plus, les Ukrainiens, pour dire qu'ils ont le moral, là où on entraîne en général en 3 mois des soldats, ils les l'ont fait en 2 semaines.
Puis ils ont repris, pardonnez-moi de vous couper, tout l'armement russe que les Russes ont laissé sur place. Oui, ils ont laissé plein de munitions.
Donc la guerre de 5 jours, puisque c'est la guerre de 5 jours, leur a permis de récupérer autant de territoires que les Russes en ont conquis en 6 mois. Donc c'est assez extraordinaire. Alors de là, et je m'arrêterai vite là, de là, faut-il en conclure que c'est plié, que les Ukrainiens vont poursuivre et que ça va gagner? Attendez, il faut attendre. C'est Churchill qui avait le mieux décrit ça en disant « It's not the end of the war, mais it's the beginning of the end ». C'est peut-être le début de la fin. Le début de la fin qui veut dire, après une phase difficile, peut-être l'amorce de quelque chose. Mais pour l'instant, je ne m'avancerai pas plus. Parce qu'il ne faut pas être...
Surtout que Moscou a promis des bombardements maintenant, par les airs. Charles
Villeneuve. Oui, non, mais ils n'ont pas la maîtrise du ciel.
Les Russes.
Les Russes. Ils ne l'ont pas et ils se rappellent de toute façon ce qu'ils ont vécu en Afghanistan. Après une perte considérable d'avions de chasse et d'hélicoptères de combat, compte tenu de l'armement à l'époque fourni par les Américains,
de Stinger,
c'est-à-dire de missiles solaires, qui sont extrêmement efficaces.
C'est ça, on dégomme les avions par le sol.
Mais ça n'est plus la même génération du temps de l'Afghanistan. Les missiles fournis par les Américains sont d'une technologie extrêmement précise et importante. Pour eux, de toute façon, ce qui reste central, c'est leur artillerie. Et c'est toujours leur artillerie. Maintenant, il ne faut pas aller trop vite dans l'affaire, de toute façon, de cette victoire de 6000 km² sur 120 000 qui sont détenus à l'heure actuelle par les Russes. C'est une défaite tactique pour les Russes, mais seulement tactique, pas stratégique. Moi, ce qui m'intrigue dans cette affaire depuis le début, depuis le 24 février dernier, c'est que Poutine n'a pas utilisé la masse de son armée et qui est largement supérieur à l'armée ukrainienne. Contre 406 000 hommes, car en réalité, depuis la mobilisation générale ukrainienne, plus l'armée elle-même de 250 000 hommes, vous avez 406 000 hommes sur le terrain face à 200 000 Russes, en état d'infériorité sur le plan de la masse considérable. Or, qu'est-ce qui retient Poutine de ne pas mettre le paquet? C'est ça la véritable question, le point d'interrogation de tous les généraux.
On n'a pas la réponse.
Non, de tous les généraux d'état-major, c'est ça la question dans le monde occidental. D'autant que, et je finis sur ce plan-là, ils sont reculés en très bon ordre, les Russes notamment. C'est la première armée blindée de la garde, qui est une armée d'élite russe. Ils ont eu un minimum de pertes et ils se sont retranchés sur la rive du Dnieper. Kherson n'est pas tombé encore. Kherson, c'est l'une des 4 villes stratégiques. Si les Ukrainiens font tomber dans les jours qui viennent Kherson,
ce sera une victoire stratégique.
Et là, on pourra en parler. Ouais. Michel Cotin.
Non, moi, je peux...
Catherine, pardon.
Oui, moi, ce qui est intéressant...
Ah bah, je sais pas.
Bon, mais...
Non, non.
Non, mais oui. C'est que... Qu'est-ce qui retient Poutine? Mais peut-être parce qu'il sent qu'il n'a pas vraiment même le soutien de ses amis chinois,
voilà.
et même de ses amis indiens. Parce qu'il admet les préoccupations de la Chine. D'ailleurs, il a dit « Nous apprécions hautement la position équilibrée de nos amis chinois dans le cadre de la crise ukrainienne. Nous comprenons vos questions et préoccupations sur ce sujet. » Parce que qu'est-ce qu'il a dit, Xi Jinping? Pour l'instant, ça, il en tire un bénéfice, ne serait-ce qu'économique. Il achète le gaz des Russes et il leur vend plus cher aux Européens. Donc c'est tout bénef. Mais il voit bien aussi, il l'a dit à Poutine, qu'il est en train d'engendrer le chaos. Il a prononcé le chaos. Ils lui disent, mais qu'est-ce que vous faites là? Et Poutine rencontre son ami Modi, qui lui a dit, l'heure n'est pas à la guerre. Donc ce soutien qui, pour l'instant... Et prudent, il risque aussi d'être de plus en plus faible. Et c'est ennuyeux pour lui, parce qu'il n'a pas de soutien.
Michel Cotin.
Oui, je voulais aborder aussi le problème chinois. Au fond, c'est plutôt rassurant ce qui s'est passé dernièrement avec l'Inde et la Chine. La Chine
avec le sommet de Samarkand, notamment.
Le sommet de Samarkand, qui est une ville merveilleuse. Mais c'est vrai que les Chinois n'ont pas donné... leur aval à l'opération militaire. C'est vrai aussi que le seul point qui les unit, c'est qu'ils sont anti-américains et qu'ils ne veulent pas d'un monde monopolaire.
Oui, on a dit le sommet de l'anti-impérialisme.
Donc c'est le sommet de l'anti-impérialisme, mais c'est aussi le sommet de la prudence dictée et suggérée à Poutine, alors qu'on avait très peur de ce sommet en disant « Après tout, ça va être la jonction ». Non. Et ce qui est très important, c'est que Xi Jinping est quand même un patron de la Chine plus intelligent et sans doute plus mesuré qu'on le croit, parce qu'il a en tête les intérêts de son pays et pas le reste.
Mais c'est une guerre asymétrique, du coup. C'est une guerre où nous avons quand même le pays qui a le meilleur armement au monde, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, qui ne cessent d'envoyer, ils rallongent chaque fois. Moi, j'étais là-bas, ils envoient, vous vous souvenez, toutes les rallonges, les unes après les autres.
Il y a encore une tranche
budgétaire. Les rallonges, je parle bien sûr budgétaire, mais budgétaire, ça se traduit en lance-roquettes et en armes.
Et ça joue sur la popularité de Biden.
Et ça joue, c'est ça, on n'est quand même pas loin des midterms.
Pour Biden, c'est aussi une arme politique, mais en tout cas, ça joue sur le terrain, on vient de le voir. Tandis qu'effectivement, de l'autre côté, pour l'instant, c'est une grande prudence des non-alignés. Disons, les pays dits non-alignés, le continent indien ne bouge pas et le continent chinois ne bouge pas non plus.
Charles.
Et ça, c'est déterminant.
Charline.
Quand on parle des Chinois et qu'on parle de l'anti-impérialisme, ça me fait rire. Il n'y a pas plus impérialiste dictatorial que les Chinois.
C'est pour ça que je le disais.
L'impérialisme américain.
L'impérialisme chinois existe tout autant.
Oui, bien
sûr. Ce qui neutralise finalement tous ces gens, quels qu'ils soient, qui les Chinois, les Indiens, 1,3 milliard d'habitants, et qui de plus en plus technologiquement arrivent au summum de la technologie, ce qui les neutralise, c'est la montée aux extrêmes. Et cette montée aux extrêmes, c'est quoi? Ça se traduit en termes clairs, l'anéantissement de votre adversaire. C'est ça l'acte de guerre, c'est le soumettre à votre volonté. Et c'est le nucléaire, la montée aux extrêmes, c'est le nucléaire. Et tous sont paralysés par le fait qu'il s'agit de ne pas utiliser même l'arme nucléaire tactique, qui est, si vous voulez, limitée sur le plan des dégâts, mais qui est dévastateur tout autant. Bon, c'est ça qui les neutralise. Et c'est une sagesse, c'est vrai, dont il faut se féliciter.
Et le seul qui peut dire à Poutine « n'utilise pas l'arme nucléaire », c'est Xi Jinping.
Oui. Notamment.
Pour l'instant. Et qui le lui dit, vraisemblablement.
Notamment.
Et qui le lui dit. Enfin, je
pense aussi, son haut état-major, qui n'a pas arrêté de se tromper, le haut état-major russe, qui lui aussi, de toute façon, ne veut pas aller jusqu'aux extrêmes.
Une pause et on revient justement sur ce sujet. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Avant de parler de la reine, de la monarchie constitutionnelle et de la monarchie britannique, quand même, un petit sujet, parce qu'on en parlait, ce sommet de Samarkand, il réunit Poutine avec Loukachenko, le président biélorusse, le président chinois, les dirigeants indiens et pakistanais qui se détestent, et Erdogan, et on essaye de, d'aligner
le pire.
Tout ce petit monde contre les Occidentaux.
Le pire, je parle d'Erdogan. Erdogan. Ouais. Non, mais je voulais simplement souligner le pire, je veux dire par là, par ces réseaux, et qui constitue une véritable menace pour la France,
avec
Erdogan.
Avec une annonce du ministre russe de l'énergie qui dit...
Il a cité un club de démocrates. Là.
Oui, avec le ministre russe de l'énergie qui, accessoirement, dit on va arrêter Nord Stream, c'est-à-dire le gazoduc entre l'Allemagne et la Russie, et on va ouvrir Sibérie 2, qui est le gazoduc qui va jusqu'à la Chine.
Ça prend un peu de temps quand même. Hein,
ça prend un peu de temps, c'est quand même des annonces atomiques, si je fais des mauvais jeux de mots.
Oui, mais je trouve que ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut quand même retenir de ce truc de Samarcande, cette réunion de Samarcande, c'est qu'en réalité, c'est plutôt contre l'usage nucléaire envisagé ou qui pourrait à un moment donné être sorti ou qui est brandi en tout cas par Poutine. En attendant, on a eu la conviction qu'ils s'entendent, qu'ils ne s'entendent pas. Ils s'entendent effectivement, ils sont tous alignés mais contre l'Amérique, on est d'accord. Mais qu'ils s'entendent ou qu'ils ne s'entendent pas, c'est plutôt, attention, pas de guerre. Oui. Donc ça veut dire pas d'extrémisme, et comme l'a dit Charles. Ouais. Et pas de bombes atomiques.
Mais il y a une arme qui va jouer quand même. Permettez-moi, il y a quand même une arme qui va jouer. Carreau. Nous avons l'Assemblée générale de l'ONU qui commence. Je ne sais pas si c'est demain, d'ailleurs, Macron.
Non, le 19.
Non,
le 19.
Lundi.
En même temps que la Reine d'Angleterre.
Comme d'habitude, toujours en mi-septembre. Et au moment où se réunit cette Assemblée générale avec tous les chefs d'État, etc., on a quand même les nouveaux massacres. On n'a pas parlé du tout des massacres ce matin. L'humanitaire, ce qui vient de se passer à Issyum, avec les peut-être
la découverte du charnier.
450. J'entends au fur et à mesure les infos fragmentaires, parce qu'on n'a pas toutes les infos. On n'a pas non plus documenté complètement. Mais il semble quand même que beaucoup de ces cadavres qu'on trouve aient été torturés, aient été effectivement abattus, malmenés. C'est des exécutions. Ce n'est pas des morts de la guerre. Ce n'est pas des morts des missiles. Ça peut jouer un rôle important, parce que l'opinion internationale, l'opinion occidentale en tout cas, l'opinion européenne, l'opinion américaine, est quand même très sensible à ça. Et ça joue contre un engagement plus massif des non-alignés en faveur de la Russie.